L'informatique devait être une bénédiction. Ce que nous avons transmis au monde est en réalité une catastrophe énorme. Sa parole est donc attendue. Le sujet du bug est encore mal connu. Pourtant, le temps presse. L'homme s'éclaircit la voix et captive l'assistance en un instant. La plupart des programmes informatiques du monde sont codés pour lire les années avec deux chiffres au lieu de quatre, donc 93 au lieu de 1993. Le raccourci a été conçu pour économiser un espace mémoire limité au début de l'informatique. Et cela avait du sens à l'époque. Mais lorsque la date dépasse le 1er janvier 2000, beaucoup de logiciels deviennent confus. Visiblement, ils penseraient que nous sommes en 1900. Mais le spécialiste ne s'arrête pas là. À l'heure actuelle, le plus gros problème est le fait que personne ne semble prendre au sérieux une menace qui va exploser à la face du monde dans moins de 2 ans. Seuls 9% des entreprises canadiennes avaient développé en 1997 un plan d'action contre la menace de l'an 2000. J'estime que pour beaucoup des structures qui n'ont pas pris le souci au sérieux, il est déjà trop tard. Au niveau fédéral canadien, le processus n'est terminé qu'à hauteur de 16%. Le pays a prévu une enveloppe d'$1 milliard pour mener à bien les transformations. C'est bien trop peu. L'expert est-il trop alarmiste? Les sénateurs le prennent très au sérieux. Après tout, il fait le tour du monde depuis le début de l'année, invité au Forum économique mondial et au sein de plein d'autres institutions. Il y a 2 ans, il a alerté sur le sujet ici, au Sénat américain et à la Chambre des représentants du Canada. Depuis, on le prend très très au sérieux dans le cercle du pouvoir mondial. C'est la plus grande histoire de l'humanité, à l'exception de la guerre mondiale. Que penser de ces alertes? L'humanité est-elle sur le point de tout perdre? Faute d'avoir trop fait confiance au système informatique programmé. Le Doomsday, que d'aucuns rangeaient parmi les fables, est-il au seuil de notre porte? Peter de Jager n'est pas le seul à le croire. Pire, un courant de panique généralisé pourrait bien transformer les sociétés occidentales pour toujours. En 1977, dans les locaux de la firme IBM, l'une des pionnières du marché florissant de l'informatique. Aujourd'hui, un nouvel opérateur âgé de 22 ans connaît ses premiers pas dans l'entreprise. Son nom, oh, vous l'avez deviné, Peter de Jager. Une grosse paire de lunettes vissées sur le nez, une cravate de travers et une chemise qui sort à moitié de son pantalon. Il est stressé. Rien de plus normal pour un premier jour de travail. Peter prend ses marques en douceur. Mais une fois installé à son poste, il note déjà une anomalie qui l'interpelle. Tous les systèmes de l'entreprise utilisent des années à 2 chiffres. Ce qui semble ne soucier personne. Sauf lui. D'emblée, le jeune homme comprend que cela pourrait provoquer un problème immense d'ici quelques décennies. Si l'année 1999 est simplement ramenée à 99, alors 2000 deviendra l'an zéro. De Jager n'a pas terminé sa première matinée de travail qu'il demande un entretien à sa direction. Cette observation doit être absolument communiquée à la hiérarchie. Il faut faire quelque chose et vite. Mais les patrons d'IBM vont se montrer circonspects. Non, t'en fais pas. Ça n'arrivera pas avant 23 ans. Alors détends-toi, on a tout le temps d'y penser. Le nouvel opérateur acquiesce. Il se mure dans le silence et laisse le temps faire son œuvre. Bientôt, la problématique lui sort de l'esprit. Un an passe, puis 5, puis 10, puis 15. Personne ne semble prendre le souci à bras-le-corps dans l'entreprise. Peter de Jager, lui, va se rappeler au bon souvenir du bug potentiel à venir. Face au dilettantisme de sa direction, il provoque le destin et n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Bientôt, il se retrouvera devant le Congrès américain et le Parlement canadien. Dès lors, la psychose d'un plantage planétaire va devenir mondiale. Les choses vont bouger à la fin des années 80. Une émission télé, Connections, entraîne chez De Jager une profonde remise en question. Le programme futuriste évoque un scénario catastrophe, basé sur le principe d'une réaction en chaîne. Ce scénario ressemble étrangement à ses pires cauchemars concernant le bug à venir. Peter de Jager alerte à nouveau ses supérieurs. mais face au manque de réaction de sa hiérarchie, il sort du bois et provoque une véritable déflagration. Au sein du Computer World Magazine, il publie en 1993 un papier de 3 pages intitulé « Doomsday 2000 », le jour du jugement dernier 2000. Ouais, rien que ça. La théorie qu'il y développe est un peu plus claire et loin d'être rassurante. Cette crise est bien réelle et elle pourrait devenir très coûteuse. Dans les colonnes du Times, De Jager va plus loin. Nous ne savons pas à l'avance ce qui tombera en panne, donc il vaut mieux tout réparer maintenant. La marche vers l'omniprésence de l'informatique est réelle et s'exprime au quotidien. En 1996, le président Bill Clinton annonce l'installation de 1800 km de câbles informatiques pour la seule Californie. Le progrès est exponentiel. L'Amérique et le monde connaissent le développement des premiers chats vidéo pour la population civile et une connexion liant images et sons est possible. Des techniques réservées depuis des années aux plus hautes sphères gouvernementales se démocratisent. Elles prennent une place centrale dans le quotidien de toute la population du monde occidental. Le monde de demain s'ouvre véritablement via une cyberculture qui s'annonce ultra dominante. Tout ceci est incarné par des figures telles que Bill Gates ou Jeff Bezos. Pour la plupart des gens, les conséquences d'un bug informatique paraissent aussi imperceptibles qu'incompréhensibles. L'inquiétude face à cet allié informatique qui pourrait devenir un ennemi mortel gagne le monde occidental dans son ensemble. Dès 1996 et 1997, de nombreux reportages tentent d'éveiller les consciences. Et le royaume de Belgique ne va pas faire longtemps exception. Printemps 1998, journal parlé de la première. Tom Goldschmidt connaît les installations de la RTBF comme sa poche. Plus qu'un visage, il est une voix connue de bien des Belges. Déjà dans les années 70, c'est lui qui allait interviewer les Rolling Stones à Amsterdam. C'est pas rien tout de même. Mais le rock britannique n'est pas le sujet sur la table ce soir. Le journaliste vient parler d'une thématique dont on craint de plus en plus les répercussions. Le bug de l'an 2000. Le tout sur base d'un constat clair. La psychose bien réelle doit être comprise et expliquée. Ce à quoi s'attelle Goldschmidt.
Le bug, le problème de l'an 2000 n'est pas une marotte de savant fou. Et fou, beaucoup d'ordinateurs et de services informatiques risquent de le devenir pendant le réveillon de l'an 2000. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir quelques années en arrière, à l'époque où les ressources de l'intelligence informatique étaient beaucoup plus rares et plus chères que maintenant. Pour les épargner, on a pris alors l'habitude de rentrer les dates sous forme de 2 chiffres seulement. 86 au lieu de 1986, par exemple. On réalisait une économie à court terme, et pour le long terme, on verrait bien.
Mais le voilà, le cœur du problème. L'époque du long terme est arrivée plus tôt que certains pouvaient le penser. Ce que le journaliste ne manque pas de souligner.
Or, aujourd'hui, beaucoup d'ordinateurs et de programmes fonctionnent toujours sur cette base. Oui, mais dans tous les programmes, dans toutes les machines où les dates sont écrites en 2 chiffres, par exemple 9 et 8, 98, pour 1998, eh bien, le 1er janvier 2000, la date deviendra 00. Et comme 00, c'est moins que 99, l'ordinateur va tirer des conclusions absurdes. Pour lui, nous serons en l'an 0. Si votre date de naissance est 1945, donc pour lui 45, l'ordinateur en conclura que vous ne naîtrez que dans 45 ans et qu'actuellement vous n'existez pas.
Comment rembourser les soins de santé d'un patient qui n'est pas encore né pour la machine, hein ? Comment lui payer sa pension ou son chômage ? Ah, l'enjeu est gigantesque. Tom Goldschmidt se charge d'enfoncer le clou.
Beaucoup d'entreprises et d'administrations se trouvent dès lors devant un casse-tête. Comment terminer le millénaire sans catastrophe ? Et d'autres firmes gagnent des fortunes en vendant aux premières des solutions, des modifications de système qui permettront de passer le cap 2000 sereinement.
Et l'addition dans tout ça ? Là aussi, Goldschmidt avance ses pions, sans embâge.
On parle de frais au total pour plusieurs centaines de milliards de dollars.
Rien que ça. Cette inquiétude belge est loin d'être la seule à s'exprimer. Dans le monde entier, des voix s'élèvent et rejoignent les premières inquiétudes exprimées par Peter De Jager. Face à l'abîme qui vient, les ingénieurs et scientifiques concernés par la question décident de prendre le problème à bras-le-corps. Ils n'ont qu'un but. Tout faire pour éviter une panne mondiale qui pourrait conduire à la fin des temps. Le bug de l'an 2000 est donc sur le point de frapper l'humanité à cause d'une simple obsolescence, un défaut inscrit dans les processeurs informatiques. Si les premiers ordinateurs à usage personnel sont arrivés sur le marché en 1981 via la société IBM, bien des machines du genre garnissaient le monde professionnel des décennies plus tôt. À la fin des années 60, plus de 40 000 ordinateurs servent à accompagner le développement de l'activité humaine dans le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au milieu des années 90, tout ou presque dépend déjà d'une technologie qui ne cesse de se perfectionner. Les machines soutiennent une activité humaine qui ne cesse d'aller toujours plus vite. Elles sont devenues indispensables. Des aéroports aux feux tricolores en passant par les satellites. L'informatique est devenue en un rien de temps une compagne de tous les jours pour l'humanité. La crainte devenue virale est celle d'un crash énorme, économique et social, au moment du passage décisif vers le nouveau millénaire. Et si à cause de processeurs incapables de fonctionner, tous les ordinateurs de la planète venaient à s'arrêter au même moment, à minuit et une seconde, le 1er janvier 2000. Ça vous paraît dingue ? Il n'en est rien. Une peur bleue, un sentiment de sinistrose s'impose dans les différentes sociétés occidentales. Une telle catastrophe pourrait entraîner des répercussions terribles. Crash d'avion, incident nucléaire, certains n'hésitent pas à parler d'un retour à l'âge de pierre. La parole de l'opérateur d'IBM, destiné au grand public, provoque bien des remous. Partout, c'est la même idée tenace qui s'impose. Il faut régler le problème et tout mettre en œuvre pour que le bug de l'an 2000 ne devienne qu'un lointain souvenir. C'est le mystère. 1998, la date fatidique du passage au nouveau millénaire approche. Pierre Istas, journaliste à la RTBF, est l'un des spécialistes qui consacre son travail aux bugs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est inquiet. Le souci informatique, qui risque d'engloutir des pans entiers de l'économie mondiale, ne va pas laisser le royaume hors d'atteinte. De nombreux secteurs ne sont pas prêts, n'ont pas encore reconfiguré leur système. Le risque, se retrouver balancé en l'an zéro et tout perdre. Ce qui n'est pas à prendre à la légère. En conséquence, il faut continuer d'alerter la population. Istas est donc sur le plateau du journal Parlé avec l'espoir de mobiliser l'opinion. En Belgique, le problème n'est pas lié à une affaire de volonté. Non, le truc, c'est qu'il n'y a plus assez d'informaticiens sur le marché. On assiste à une pénurie totale. C'est tellement le cas qu'au printemps, IBM s'est associé avec le Forem pour former en quelques semaines seulement de nouveaux professionnels venus de tous les horizons. Hélas, ce n'est pas suffisant. Ce soir, le journaliste se charge de tirer la sonnette d'alarme.
Le monde informatisé vit sous une menace constante, le bug de l'an 2000. Tous les ordinateurs vont-ils pédaler dans la choucroute parce que de 99, ils passeront en 00 et non en 2000. La question est cruciale et bien connue, mais à 14 mois du jour fatal, l'INSEA, l'Association des informaticiens, lance un sérieux cri d'alarme.
On peut dire que plus de 50% des PME en Belgique ne sont même pas conscientes de l'impact que la problématique 2000, par exemple, peut avoir sur leur organisation. Aujourd'hui, au minimum, il nous manque 5000 informaticiens en Belgique.
Et le journaliste de conclure, l'an 2000, c'est dans 419 jours. Cette fois, le compte à rebours est définitivement lancé. Aux États-Unis, personne ne prend le problème à la légère. Une blague célèbre circule dès 1998 dans tous les milieux concernés. Imaginez que vous deviez remplacer tous les boulons du Brooklyn Bridge. C'est colossal, mais faisable. Imaginez maintenant que vous deviez changer tous les boulons des ponts du monde entier et que vous ayez seulement 21 mois pour le faire. Colossal, oui. Voilà le mot qui convient le mieux pour qualifier cette course contre la montre. En Belgique aussi, on s'active sans attendre. À l'échelle nationale, on estime qu'il faudra débourser près de 240 milliards de francs belges, soit près de 6 milliards d'euros, pour régler le problème du délire. Quant à Peter de Jager, il court la planète pour continuer d'alerter les uns et les autres. Son site internet génère au crépuscule de l'année 1998 près de 600 000 visites d'internautes par mois, ce qui en fait le plus consulté dans le monde pour l'époque. Dans ce dossier, Internet devient une véritable source de prise de conscience face aux problèmes à venir. Pour la première fois, le réseau s'exprime à plein. Le président Clinton nomme à la tête du projet 2000 le Y2K, John Koskinen, un ancien de Duke et de Yale. Le sigle Y2K passe à la postérité. Il est toujours couramment utilisé aujourd'hui. Américains lancent d'énormes tests afin de tenter d'anticiper tous les scénarios catastrophes. On se rend compte que tout est déjà informatisé, des distributeurs de billets aux pompes à essence. Pire encore, les missiles sont aussi reliés à des systèmes informatiques, tout comme les rames de métro ou les radars des avions. Si un de ces systèmes vient à bugger, la réaction en chaîne sera monumentale. Pitch Bottom, un centre nucléaire américain, connaît un souci majeur lorsque les équipes tentent de modifier les systèmes de datation. Aussitôt, après avoir fait la manipulation, toutes les machines tombent en rade. Il faut près de 8 heures pour remettre le système en marche. L'ampleur du problème se mondialise. L'inquiétude aussi. Des milliers d'emplois et la survie de grosses boîtes sont en jeu. C'est notamment le cas d'Electrabel, l'entreprise qui monopolise le secteur de l'électricité et de l'énergie en Belgique. Une défaillance de sa part lors du passage au nouveau millénaire et c'est le drame. Alors pour l'éviter, la firme se lance dans un énorme plan de bataille qui va occuper des centaines et des centaines de personnes. Le tout avec l'espoir d'être prêt à temps. Ce qui, au début de l'année 1999, est loin d'être gagné. C'est tellement le cas que la centrale nucléaire de Tihange 1 est mise en isotage en prévision du réveillon. Un représentant d'Electrabel explique cette mesure de précaution.
C'est-à-dire qu'on va isoler la centrale de Tihange 1 du reste du réseau électrique de l'infrastructure. Mais elle fonctionnera. C'est donc une unité qui va fonctionner en puissance réduite, déconnectée totalement du réseau, et l'électricité qu'elle produira, elle la consommera, elle auto-consommera, si vous voulez, son électricité. Alors, la problématique, c'est que ces changements de consommation soient concentrés dans un laps de temps relativement court et nous mettent dans une situation où nos centrales ont du mal à suivre. Donc, pour ce faire, nous avons décidé, plutôt que d'avoir un nombre restreint de centrales électriques qui fonctionnent pour répondre à la faible consommation d'une nuit de réveillon, nous avons demandé à toutes nos centrales de fonctionner, mais à des régimes de puissance réduits.
Autre secteur en première ligne, le médical et l'hospitalier. De nombreux dispositifs contenant des processeurs et des logiciels pourraient être concernés par un potentiel bug. La charge de travail pour sécuriser cet ensemble est aussi gigantesque. Un seul mot d'ordre, se prémunir au maximum. Des procédures sont mises en place, mais pas assez. Et pas dans tous les secteurs, comme le craint le spécialiste Michel Duvivier, invité de Matin Première.
Absolument, le problème est mondial. Ça veut dire que tous les ordinateurs, au même moment, à la même date, se devront de réagir convenablement. Alors les conséquences, elles, sont beaucoup plus complexes et difficiles. Je crois que le problème se pose beaucoup plus aujourd'hui, c'est dans des secteurs moyens ou dans des petites organisations. Tels que, par exemple, le secteur hospitalier, tels que, par exemple, les PME.
Qui sont des secteurs qui ne se préparent pas de la même manière que les grands secteurs, qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire, c'est un peu ça le problème?
Voilà, malheureusement, toutes les enquêtes déterminent aujourd'hui que dans les PME, encore un grand pourcentage d'organisations n'ont pas pris en main le problème, n'ont pas pris conscience, ni pris en main le problème. Moi, je suis persuadé qu'il y aura des problèmes.
Par exemple
des sociétés qui ne pourront plus fonctionner. Et donc là, on va arriver devant une autre problématique, qui est le problème domino. C'est-à-dire qu'une société qui ne peut plus fonctionner, qui va ne plus pouvoir rendre son service ou livrer sa marchandise, va mettre en péril la chaîne économique qui suit.
Les semaines passent et un constat s'impose. Un certain dilettantisme entraîne du retard à tous les étages. En conséquence, la SNCB annonce carrément interrompre son trafic le 31 décembre. Raison de sécurité, là encore. Elle est suivie de près par la Sabena qui suspend ses vols. Un vol test aura tout de même lieu à 2h du matin, sans voyageur civil. La psychose est réelle. Elle circule partout. Alors que l'alerte est donnée depuis plusieurs années, ce n'est véritablement qu'au début de l'année 1999 que l'opinion comprend véritablement l'urgence. Les marchands de peur s'en donnent à cœur joie. Certains annoncent une rupture brutale du progrès, un retour en arrière de plusieurs siècles. D'autres parlent de guerre civile, de chaos, de révolution. L'alarmisme nourrit les craintes. Les craintes nourrissent les supputations les plus extrêmes. Aux États-Unis, il n'est pas rare de voir des groupes de parole se développer sur la question, alors que les interrogations autour du bug ne cessent d'être toujours plus nombreuses, toujours plus diverses. On fait ses réserves. On redéveloppe un esprit communautaire devenu désuet depuis longtemps. Au-delà de la technologie, le souci prend des proportions sociétales et sociologiques. Des sondages d'opinion montrent qu'au pays de l'oncle Sam, 6 personnes sur 10 sont apeurées par le changement d'année. Le chiffre ne fait qu'augmenter mois après mois en 1999. Ce phénomène est tout à fait explicable. Le flot d'informations, de reportages télé, d'émissions spéciales ne cesse d'augmenter. Chaque fois, la même issue. On ne sait pas ce qui va se passer. Protégez-vous. Dans le monde entier, la population se braque de plus en plus face au spectre de l'échéance qui vient. En Belgique, au début du mois de décembre, le Premier ministre, Guy Verhofstadt, aux manettes depuis peu, prend la parole publiquement sur le sujet. Il se veut rassurant et annonce la création d'une messagerie internationale.
Il y a la chambre de messagerie internationale qui est en contact direct avec l'ONU.